Le Festival international du roman noir de Frontignan dans l'Hérault rassemble une quarantaine d'auteurs venus de nombreux pays. Cette année, le thème du festival était la frontière, et parmi les invités, Nahiri Nahapetian, franco-iranienne, qui a écrit le premier roman noir se déroulant en Iran, qui a tué l'ayatollah Khamenei. Une enquête policière qui permet de revenir sur la période sanglante qui a marqué l'instauration de la République islamique. Avec Nahiri, nous avons parlé de son arrivée en France dans les années 80, l'impossibilité de retourner au pays pendant un temps, et du regard qu'elle porte sur ce parcours singulier.
On dit que c'est le premier roman noir, enfin en tout cas ça a été présenté comme ça, hein, puisque là on est au Festival international du roman noir de Frontignan. Alors ça a été présenté comme le premier roman noir donc, qui se passerait en Iran, c'est ça?
D'après mes recherches, oui. Alors je connais pas tout ce qui se publie en Iran, mais si jamais un roman noir a été publié en Iran, je pense qu'il est pas, il y a pas le meurtre d'un ayatollah, c'est pas un roman de critique de la République islamique comme le mien. Mais je sais pas pourquoi, je crois pas que le roman noir soit un genre très en vogue dans la République islamique.
Ce serait l'occasion de vous demander, vous, votre définition du roman noir, finalement.
Plutôt que de vous donner ma définition, je vais vous dire ce qui, moi, m'intéresse dans le roman noir. C'est quand même beaucoup l'enquête et l'énigme. Et c'est une chose qui est en commun dans tout ce que j'écris, c'est qu'il y a toujours une enquête et une forme d'énigme avec une réponse à la fin. C'est vrai que c'est beaucoup ce qui m'intéresse. Ce que j'ai voulu faire aussi dans ce roman, c'était un peu remonter dans l'inconscient collectif des Iraniens, remonter jusqu'à la Révolution. Oui, l'inconscient collectif des Iraniens, remonter jusqu'à la Révolution, au traumatisme de la Révolution. Puis un journaliste, une fois, m'a posé une question sur la culpabilité. Il m'a dit, mais quand on écrit des romans noirs, des romans policiers, on cherche qui est le meurtrier, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu autour de la culpabilité? Et sur le coup, j'avais pas fait cette réponse-là sur le coup, mais après j'y ai repensé et je pense qu'il y a quelque chose chez moi à chercher autour de la culpabilité de ceux qui sont partis, de ceux qui se sont exilés et par rapport à ceux qu'on a laissés derrière, quoi. Donc je pense que dans ce roman, c'est une thématique qui est présente en fait aussi. Ouais.
C'est l'occasion de parler de votre arrivée en France. Est-ce qu'on peut parler des raisons qui vous ont poussé à quitter l'Iran?
Alors ça a été compliqué quand même. Moi j'étais petite, j'avais 9 ans. Je suis arrivée en France durant l'été 1980, donc c'était après la Révolution. Et j'étais avec ma mère qui n'avait pas le projet affirmé, ouvert, de venir s'installer en France et de fuir la République islamique. En fait, on est venu passer nos vacances parce qu'on a... On avait des liens réguliers avec la France et on venait souvent en vacances. Et en août 80, en fait, l'Irak a attaqué l'Iran. La guerre s'est déclarée. Les aéroports étaient fermés. On ne pouvait physiquement pas rentrer. Donc on est resté un peu de manière provisoire. Mais je pense qu'il y avait quand même l'idée de partir et de fuir la République islamique, mais de manière... quand même assez inconsciente, quoi. Et voilà, et puis ça s'est prolongé et après on n'a pas moi je suis pas rentrée en Iran pendant oui c'est les cloches je suis pas rentrée en Iran pendant 15 ans. Les vacances se sont longuement prolongées.
Alors ben, pourquoi ce retour en Iran et dans quelles conditions vous l'avez fait?
Alors en fait pendant la guerre sous Khomeini, où il y avait une très forte répression, il n'était pas question de rentrer. Si on rentrait, on ne ressortait plus. Sous la présidence de Rafsanjani, les choses se sont calmées. Et surtout les binationaux, parce que bon, au bout de 15 ans, moi j'avais pris la nationalité française, les binationaux ont été autorisés à rentrer en Iran. Je pense que le le régime prenait un tournant pragmatique et se disait que les exilés qui rentraient, c'était aussi des devises qui rentraient. Et voilà. Donc on a entendu par des amis iraniens qu'on pouvait rentrer. Et c'est vrai que c'était aussi un besoin que j'éprouvais. Moi, je faisais des études d'histoire. Je m'intéressais à l'histoire de la Révolution. J'étais en train de terminer mes études, en fait. J'ai fait un premier voyage et puis un second voyage où j'ai fait des reportages et je suis devenue journaliste comme ça.
Oh, nom de Dieu, vous êtes encore vivant. J'étais morte d'inquiétude. Oh là là, ils ont tiré sur les gens.
C'était chaud, mamie, c'était chaud. On s'est enfui avec Tadji, mais on s'est fait coincer quelques rues plus loin par les soldats. Ces fils de pute m'ont confisqué mes pellicules.
On a passé des heures au commissariat.
Ah, Margie était surexcitée. Tout l'après-midi, elle m'a bassiné avec les prolétaires et les péquenots et la lutte des classes et l'autre barbu, là, le Che Guevara.
Le type qui a été tué à côté d'eux, il n'avait même pas 20 ans. Mais c'est quoi ce pays?
Ce pays, en ce moment, c'est la merde, ma fille.
Ah bah le chat.
Et c'est reparti.
Ah bah le chat. Ah bah le chat.
Margie, au lit, tout de suite.
Là voilà, par exemple, on entend les cloches. Donc ça, c'est un environnement sonore typiquement français, occidental, européen. Vous avez quitté l'Iran à 9 ans. J'imagine que c'était plutôt le son du muezzin. Comment ça s'est passé, ce décalage culturel? Comment vous avez vécu tout ça?
Alors, déjà, je viens quand même d'une partie... Déjà, je suis d'origine arménienne, donc chrétienne. Donc je viens d'une communauté... très occidentalisée, mais beaucoup d'Iraniens, Persans, musulmans sont aussi très, très occidentalisés, mais quand même le fait d'être arménien, c'est une donnée importante, parce que c'est, comment vous dire, les Arméniens se sentaient déjà en exil en Iran, quoi, même si une grande partie de ma famille est là depuis des millénaires, l'autre partie depuis des siècles. Donc c'est malgré ça, les Arméniens, on se transporte avec eux ce sentiment d'exil. Donc ce qui m'empêche pas, moi, d'avoir un très fort attachement à l'Iran, qui est le pays de mon enfance. Quand je suis rentrée en Iran, je me suis rendu compte à quel point j'étais attachée à l'Iran, enfin, parce que c'était très émouvant de retrouver ma ville.
On peut la citer ?
Comment ?
On peut citer la ville ?
Oui, bien sûr, Téhéran, Téhéran, qui est une ville tout à fait, qui est la capitale, qui est une ville assez monstrueuse, très polluée, enfin, que je décris beaucoup dans mon livre. C'est même, je pense, le personnage principal de mon livre, c'est vraiment la ville. Mais voilà, quoi, que c'est vrai que quand je suis rentrée, j'ai retrouvé ma ville. Je l'ai vraiment très fortement ressenti. J'avais fait, avant de rentrer en Iran, c'est peut-être intéressant ça, j'avais fait plusieurs voyages au Maghreb. Et déjà, j'avais été submergée comme ça par des émotions du fait de me retrouver dans un pays musulman. Je m'étais dit que oui, que si j'avais été autant submergée par des émotions en allant au Maroc, c'est parce que ça me rappelait probablement l'Iran. Donc ça avait cheminé dans ma tête. Peut-être que je peux vous préciser une chose sur les langues que je parle. Parce qu'en Iran, j'ai toujours été bilingue, arménien, persan, farsi. Quand je suis arrivée en France, donc je parlais arménien à la maison, et j'ai en quelque sorte occulté le farsi, quoi. Très vite, je l'ai oublié. Je pense que c'était un blocage, qu'il y avait voilà, qu'il fallait s'intégrer, et que donc j'ai mis de côté une langue. L'urgence, c'était de parler français, j'ai un peu fait le blackout sur le farsi, et en même temps, ça me manquait. Quand je rencontrais des persans, je souffrais un peu de pas leur... Je comprenais tout ce qu'ils me disaient et puis j'osais pas leur répondre. J'avais l'impression d'avoir perdu la musique de la langue, en fait, parce que c'est une langue très musicale et j'avais l'impression que quand moi je parlais le farsi, c'était sur la musique du français ou sur la musique de l'arménien et que ça allait pas, que c'était pas la musique du persan. Et quand j'ai fait mon premier voyage en Iran, peu de temps après, j'ai pris des cours de persan, des cours particuliers avec une femme extraordinaire, une prof, une iranienne qui a fait revenir le persan de manière presque magique, quoi. C'était assez étonnant parce qu'en deux, trois cours, c'est revenu. C'est comme si la langue était en sommeil chez moi. Voilà.
Qu'est-ce que vous retenez de cette période, de cette première période d'adaptation, vous, enfant d'une dizaine d'années ?
C'était quand même difficile, hein, quand on est enfant, à la fois on a un sens de l'adaptation très fort, quoi, donc assez naturellement on s'adapte à notre nouvel environnement, et à la fois on a tout un univers qui est la famille, qui est les amis, et moi j'avais durement ressenti le fait d'avoir perdu tout mon environnement, surtout familial. J'avais une grande famille en Iran, et en France on était assez isolés. Par ailleurs, c'était... je vous raconte des choses personnelles aussi. Hein. C'était ma mère était quand même assez âgée. Elle avait quand on a immigré, elle avait 49 ans. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis mais c'est incroyable d'immigrer à 49 ans, quoi. Et je pense que pour elle c'était très dur. C'était ça a été vraiment très très dur. Et elle ressentait beaucoup le décalage culturel. C'est encore une femme très orientale. Et moi, avec mes yeux de petite fille, je la voyais souffrir de ça, quoi. Et à l'époque, est-ce que je mettais un nom là-dessus ? Je crois pas. Je crois que c'est avec le recul que je me suis dit que ce qui la faisait un peu souffrir au quotidien, dans ses rapports, dans le travail, etc., que c'était des choses qui tenaient du décalage culturel. Je crois que c'est aussi parce que j'ai rencontré après des Libanais qui m'ont dit qu'ils ressentaient aussi ça, que j'ai réussi à mettre un nom dessus. Il y a aussi eu quelque chose dont moi je souffrais pas parce que j'étais enfant, mais que dont je sentais que ma mère elle souffrait, et que beaucoup d'exilés iraniens ou d'autres pays ont pu ressentir quand comme ça des intelligentsias quittent un pays pour des raisons politiques, c'est le déclassement. Parce que même si finalement on arrive en France, on a plus d'armes pour nous intégrer parce que justement on appartient à une intelligentsia, à une élite, malgré tout on vit un déclassement. Et ça c'est pareil, c'est notamment en faisant des reportages sur l'immigration, sur d'autres communautés immigrées que j'ai mis des noms dessus comme ça après quand j'étais adulte, que j'ai compris ça. Il y a aussi peut-être une chose dont je peux vous parler qui est dont j'essaye de rendre compte dans un roman qui est en cours d'écriture là, qui est le rapport qu'on entretient aussi avec le pays qu'on a quitté, qu'on retrouve pas, qu'on a mis pour ma part 15 ans à retrouver, que beaucoup d'Iraniens que je connais ont même mis 20 ans, 30 ans à retrouver. J'en connais aussi qui ne sont pas rentrés en Iran, notamment pour des raisons politiques, ou alors parce qu'ils ont vécu des emprisonnements traumatisants et que voilà, ce serait trop dur de rentrer. Et c'est vrai qu'il se tisse un lien avec le pays d'origine qui est un peu mythifié, qui est nourri par tout ce qu'on entend, par des rumeurs, mais ce pays est très présent, ça reste vraiment très présent. Et moi j'ai un peu vécu mon enfance comme ça, dans les rumeurs. Alors j'en rends compte dans mon roman sur l'ayatollah Khamenei, de rumeurs de la répression, de rumeurs de la guerre. Donc on vit comme ça à l'écoute de ce qui se passe quand même en Iran, dans le pays qu'on a quitté. Ouais, tout à fait.
J'ai compris votre révolte. Nous allons essayer tous ensemble de marcher vers la démocratie. Nous bâtirons l'avenir main dans la main.
Avec une une actualité particulière en ce moment, mais dont on ne va pas forcément parler, même si ça vous touche, évidemment.
Ah oui, oui, beaucoup. Ouais. Moi, j'étais très émue quand j'ai vu les images des manifestations, quand j'ai vu comme ça 1 million de personnes dans les rues de Téhéran qui défilaient pacifiquement. Je pouvais pas m'empêcher de me dire, avec le cœur qui bat, mais ça y est, c'est la révolution qui recommence. J'étais un peu frustrée de ne pas y être non plus, mais... j'étais très, très émue. Ce mouvement populaire ne m'a pas étonnée du tout, parce que j'ai quand même fait de nombreux voyages en Iran. J'ai constaté le dynamisme de la société civile. Ça fait des années que je me dis que cette société moderne, éduquée, qui a fait sa transition démographique, qui vit sous la loi islamique, que l'évolution de cette société entre en contradiction avec la loi au quotidien. Donc ça fait des années que je me dis que cette contradiction, cette tension, elle risque d'éclater un jour. Ce qui m'a plus étonnée, ce qui m'étonne plus en ce moment, c'est que le sommet de l'État se divise. Il y a beaucoup de divisions internes à la République islamique. Bien sûr, la division entre conservateurs et réformateurs, et je pense que les réformateurs pourraient être en Iran vecteur d'un vrai changement, et les conservateurs essayent de les en empêcher. Mais ce qui m'étonne encore plus, là où il y a une vraie surprise, c'est qu'il y a au sein même du camp des conservateurs des divisions. Donc aujourd'hui, le mouvement populaire a été calmé par une répression dure. Je ne sais pas s'il va renaître, je ne risque surtout pas à faire des pronostics. Après, ce que donnera cette division à la tête de l'État, ça c'est quelque chose de vraiment inédit et de très incertain.
Alors Nahiri, vous l'avez dit, hein, vous avez des origines arméniennes, iraniennes, vous avez vécu la majeure partie de votre vie en France.
Oui.
Pour le coup, ça vous donne sans doute un regard particulier quand même sur la société française.
Je pense, oui. Et puis le fait d'être bilingue aussi, forcément, ça donne un sens du relativisme culturel. Oui, tout à fait. Ce qui m'inquiète en ce moment quand même, et qui me tient beaucoup à cœur, c'est la situation des immigrés en France. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très inquiétant, parce que des gens qui avaient des cartes de séjour de 10 ans, aujourd'hui on leur donne des cartes de séjour de 1 an, puis de 3 mois, on les fragilise, on les empêche de travailler. J'ai même des amis iraniens qui sont arrivés après moi. Et donc je vois que moi, je suis arrivée à une période où, on a eu une carte de séjour, puis je me suis fait naturaliser. Donc les choses se sont faites toutes seules et je suis complètement intégrée. J'ai un petit garçon, mon fils est français, voilà, c'est normal. Et j'ai ces amis qui sont arrivés plus tard. Et on ne leur donne pas de papier, on les empêche de travailler, ils trouvent du travail. Leurs employeurs disent « mais... on veut les garder, c'est lui qu'on veut embaucher, et non, c'est pas possible. » Il y a comme ça des freins qui leur sont mis constamment, et je pense que c'est quelque chose de grave, parce que quand je vois... Alors je pense pas du tout que la société américaine soit une société idéale. J'ai une grande partie de ma famille qui est aux États-Unis, j'y vais souvent, et je suis la première à critiquer la violence de la société américaine. Mais quand je vois qu'ils viennent d'élire Obama, donc un président noir, dans une société où il y a encore 50 ans il y avait la ségrégation dans les bus, c'est une société vraiment en mouvement, et c'est resté une société en mouvement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont quand même malgré tout rester ouvert à l'immigration. Alors, il y a de l'immigration clandestine aux États-Unis qui est réprimée, tout n'est pas adoré, mais quand même, ça reste une terre d'immigration, ce que la France a toujours été, quoi. Le fait de ne plus être une terre d'immigration, ça me paraît vraiment quelque chose qui fragilise même l'identité française.
C'était un entretien avec Nahiri Nahapetian, franco-iranienne qui a publié le premier roman noir se déroulant en Iran, Qui a tué l'Ayatollah Khamenei, aux éditions Liana Levy. Thank you.